Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Pixel et Préjugés, un podcast sur les jeux vidéo, en compagnie aujourd'hui de Francis Baudry. Bonjour, Francis.
Salut, Hugo.
Alors, ça se passe toujours bien dans le coin de Sudbury?
Écoute, la vie suit son cours, un peu pluvieux ces jours-ci, mais bon, peu importe la journée à laquelle vous écoutez ce podcast, peut-être que le soleil sera revenu dans la météo et dans mon cœur aussi. Mais oui, tout se passe bien.
Bon, ben écoute, tant mieux ici, il pleut aussi à Montréal, donc voilà, frère de météo à plusieurs centaines de kilomètres de distance. On va essayer de passer à travers ensemble. Je pense qu'on est fait assez fort, toi et moi.
On n'est pas fait en chocolat, comme on dit.
Voilà, exactement. Aujourd'hui, 20e épisode donc de Pixel et Préjugés. Ça fait plusieurs fois que tu nous parles de jeux, de survie, de crafting, de construction. Et aujourd'hui, ben écoute, on poursuit cette tradition, j'allais dire millénaire, mais pas tout à fait, là, disons. Cette tradition qu'on espère qu'il va se poursuivre quand même, il y a certainement des idées très intéressantes dans le jeu dont tu vas nous parler aujourd'hui. Justement, est-ce que tu pourrais nous dire le nom de ce jeu?
Eh bien, c'est quasiment ma marotte de parler de jeux de survie, de construction et de fabrication, Hugo. Mais aujourd'hui, je vous parle en fait de Grounded, qui est un nouveau projet, en fait, qui vient tout juste d'arriver dans sa version définitive, qui vient du studio Obsidian, et qui justement amène une twist tout à fait différente sur les jeux de survie. Je pense que sur les jeux en général, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont cette prémisse-là. Mais malheureusement, Hugo, c'est un jeu qui a plein de bugs.
Ah, oh, je pense qu'on sent le gag ici.
Parce que, oui, bon, absolument.
On va l'expliquer à nos auditeurs, ceux qui ne connaissent pas Grounded. Ça se passe au niveau du ras du sol. Prenez un peu, chérie, j'ai réduit les enfants, c'était ça le titre?
Je pense que c'est ça le nom du film, oui, en effet. Donc, chérie, j'ai réduit les petits ou quelque chose comme ça.
Avec Rick Moranis.
Ah, oh, mon Dieu, c'était un vieux film, ça. Je me souviens pas du tout de l'intrigue, mais c'est un peu le même concept. Nous sommes des enfants qui ont été réduits à la taille d'une fourmi et qui doivent, en fait, survivre dans une cour arrière pleine de dangers et tenter, en fait, de retrouver le chemin vers la grandeur normale et donc pouvoir rentrer chez soi. Donc, c'est un jeu qui est sorti par Obsidian, qui est en développement depuis 2020, depuis juillet 2020, en fait, et qui vient là, le 27 septembre tout juste de sortir pour sa version 1.0. Les développeurs nous ont vraiment gâtés là. Ils ont en même temps on a eu quand même beaucoup de développement, différentes patchs au cours des dernières années de développement, mais là la patch pour passer de la version anticipée à la version 1.0, c'est la plus grosse patch de contenu qu'ils ont faite depuis le début de tout le cycle de la bêta. Donc une gigantesque patch de contenu, et vraiment les joueurs sont gâtés là. On peut enfin avoir l'histoire plus en détail, explorer toute la cour arrière au complet qu'ils ont construit jusqu'à maintenant, et en fait terminer le mystère de notre réduction, de notre rapetissement. Et donc je m'en donne un peu à cœur joie là, depuis que c'est sorti, mais pas trop. J'essaie de jouer avec mes amis aussi, avec une partie qu'on a commencé, donc mon mode solo, je l'avance un petit peu, pas trop, pour garder un peu de suspense pour jouer avec mes amis plus tard.
C'est justement un peu un aspect qui est assez primordial généralement dans ce genre de jeu-là, c'est-à-dire on peut avoir effectivement une campagne solo, mais bon, vous en parliez, Alex et toi, quand il était question de Raft, notamment le dernier épisode, ça peut être un peu, en tout cas Raft, ça semblait être un peu redondant ou compliqué quand on joue seul. C'est le genre de jeu qui est pas nécessairement un jeu de party. On n'est pas là nécessairement à s'esclaffer et à avoir du gros plaisir, mais ça semble être le genre de jeu où, effectivement, il faut avoir quelqu'un avec soi. Est-ce que tu as trouvé que dans ton jeu solo, il y a des moments où c'était compliqué ou que c'était ennuyant ou c'était moins intéressant que le multijoueur?
Ça, par contre, que normalement, les jeux de... Mis à part les jeux qui sont explicitement faits pour être seul comme Subnautica, mettons, Grounded tient la route pas mal plus comme jeu solo que je le dirais dans Raft, là, avec tout l'amour que j'ai pour Raft aussi. Grounded tient un peu plus la route en single player parce que il y a automatiquement une certaine difficulté qui est ajustée pour le joueur. Là, je crois, je l'ai pas vérifié de manière empirique, là, mais je suis pas mal certain que les barres de vie des insectes contre lesquels on se combat dans la cour arrière est un petit peu plus petite pendant la campagne solo que pendant la campagne multijoueur. Je pense qu'il y a un scaling à ce niveau-là. Et aussi, en fait, il y a rien vraiment de mécanique. Il y a pas beaucoup de mécaniques, en fait, qui sont vraiment plus simple à plusieurs que tout seul, mis à part peut-être quelques événements comme des espèces de défense, de points de capture que des fois tu peux faire optionnellement sur la carte. La plupart des mécaniques se font aussi bien seul qu'en groupe. Et en fait, c'est juste que le concept de se promener, et le concept n'est pas changé par le fait que tu es seul, justement, dans la cour ou à plusieurs, mais c'est sûr que pour l'aspect social du jeu, c'est peut-être plus facile de jouer en groupe, mis à part le fait où faut que tu assembles des gens pour jouer avec toi en groupe. Ça, c'est comme un ennemi mortel du jeu en groupe, c'est de trouver le temps pour que tout le monde puisse jouer. Donc, vraiment, c'est un jeu qui se tient bien. J'ai été agréablement surpris de la facilité à ce que j'ai eu me faire ma propre partie solo. Donc, à ce niveau-là, c'est bien.
Justement, bon, tu mentionnes une draft depuis plusieurs occasions, depuis le début de l'épisode. Encore une fois, on en avait parlé la dernière fois. Il faut noter généralement que c'est ce genre de jeu-là, c'est un peu le triumvirat du jeu indie qui ça passe ou ça casse. Ça, puis la survie horreur, là, c'est un peu les deux marottes, les deux grands thèmes des jeux indie. C'est des mécaniques qu'on peut, j'imagine, facilement répliquer. Et là, c'est toujours un peu l'emballage qui est autour, qui va faire en sorte que est-ce que c'est un bon jeu ou est-ce que c'est un jeu qui se vendra pas du tout. Et on a, bon, écoute, j'ai pas joué à Raft et j'ai pas beaucoup joué à ce genre de jeu, mais généralement, côté graphique, c'est pas nécessairement peut-être la plus grosse affaire, c'est peut-être un style plus daté. Là, dans ce cas-ci, c'est pas un jeu indie, là. Obsidian, c'est un studio 3A. Ils ont travaillé, ils sont édités par Xbox Game Studios. C'est un gros projet, là. Parce qu'Obsidian, bon, peut-être ceux qui connaissent moins, c'est les gens qui ont fait The Outer Worlds, le jeu de rôle à la première personne. C'était des gens qui avaient travaillé sur Fallout New Vegas, si je me trompe pas, qui avaient fait Fallout New Vegas à l'époque, qui est une excellente expansion autonome de Fallout 3. Ils ont fait, bon, Pillars of Eternity, je pense, 1 et 2, faut pas que je me trompe. Ils ont de l'expérience. Est-ce que tu voyais cette expérience, par exemple, dans la qualité graphique?
Ah oui, ça c'est clair. Là, d'ailleurs, c'est drôle parce que il y a pas si longtemps que ça, il y a un développeur qui avait mis une photo sur Twitter de l'un des premiers concepts, des premiers en fait jets des araignées qu'il voulait construire, qu'il voulait mettre sur le terrain versus les graphiques d'aujourd'hui. C'est vraiment très 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 beau. Subnautica, je comparais les graphiques plus dans le domaine de Subnautica. Mm-hmm. C'est pas nécessairement parce que Subnautica ils peuvent s'en permettre plus parce que c'est du solo et tout, mais ça va jouer dans les mêmes pâturages que Subnautica. Peut-être un petit peu moins. C'est peut-être moins l'expérience visuelle est peut-être moins un des buts des développeurs, mais les graphiques sont extrêmement corrects pour même sont bien meilleurs que beaucoup de jeux de survie que j'ai vu là, jusqu'à maintenant. Notamment que Raft, notamment que d'autres de ce que j'ai vu avec Echo, le jeu qu'Alex joue. Donc ça, j'ai trouvé ça super bien. Justement, ça fait un peu différent. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que vu qu'on est tout petit et que là, finalement, ça nous permet en fait de des fois grimper sur des choses qu'on pense pas vraiment. Là, il y a un carré de sable, là, si tu veux. Tu grimpes sur le rebord du carré de sable qui est en forme d'espèce de crabe, si tu veux, comme les carrés de sable en plastique. Et là, tu peux voir toute la cour arrière du haut de cette ou la table de pique-nique aussi, et tu vois que c'est beau, qu'ils ont vraiment pris la peine, que même si c'était petit, quand tu regardes de haut, t'as comme une vue un peu comme une forêt, alors que c'est une cour arrière avec toutes les différentes décorations de jardin qui existent. Fait que non, ça, ils ont vraiment mis le paquet là-dessus, et ça paraît que c'est un gros studio qui gère ça, qui ont le moyen de commencer à mettre qui ont mis des ressources en masse pour que ce soit beau, pour qu'on y croit, pour qu'on ait vraiment l'impression d'être, quand on est au niveau du sol, dans une forêt, mais en fait, c'est du gazon. Et quand on est en hauteur un petit peu, on a l'impression de voir une gigantesque forêt luxuriante, mais qu'on reconnaît comme étant une cour arrière de gens un peu qui étaient avec des nains de jardin et tout.
Encore une fois, c'est peut-être juste pour terminer sur la question des performances. Bon, je regardais rapidement, c'est fait dans l'engin Unreal Engine 4, qui est quand même un très bon engin. Bon, là, on est rendu à Unreal Engine 5, mais on va quand même pas... C'est le genre d'engin graphique qui demande des capacités graphiques assez avancées. Je pense pas que les gens qui ont envie de jouer à Grounded vont faire la file pour s'acheter une RTX 3090 ou quoi que ce soit. Ils paieront pas 1000$ pour une carte graphique. Je regarde les exigences. Le minimum, c'est une GTX 650. On est loin de... bon, c'est peut-être un peu technique là pour certaines personnes qui nous écoutent. Mais bref, on est loin des dernières cartes graphiques qui vont vous mettre à la rue pratiquement. Ça demande peu ou pas beaucoup d'espace disque, peu ou pas de mémoire vive. Bon, toi, j'imagine que tu as quand même un ordinateur qui se défend bien, quand même une bonne machine.
Ma vieille machine ne roulait bien aussi. J'ai changé d'ordinateur au début de l'année. Mon ancienne machine ne roulait très bien aussi. Mais je pense qu'il économise beaucoup de performance en vue qu'on est petit, qu'on voit pas haut, à part quand on va sur les grands points. La plupart de ton action, elle va se dérouler sur un petit espace de rendu, donc ils n'ont pas nécessairement ils ont pas eu à payer si cher, je pense, en termes de capacité pour avoir droit à beaucoup de rendu, parce que de toute façon il y a beaucoup de places que tu vois pas grand chose de très loin dans la comme 90% du jeu, alors je pense que c'est là-dessus qu'on sauve un peu de performance.
Ben écoute, tant mieux, parce que bon, je suis un aparté, mais je suis en train de tester Uncharted 4, la version PC, et même j'ai dû mettre ça à qualité visuelle basse, parce que mon ordinateur a quand même quelques années. J'ai une carte graphique qui a elle aussi quelques années, mais ça coûte très très cher, encore une fois, s'équiper. Mais ultimement, est-ce que ça rend le jeu plus intéressant? Pas nécessairement. En tout cas, j'aurai une critique à faire quand l'embargo sera levé. Là, c'est dans quelques jours. J'ai pas le droit d'en parler jusqu'à ce moment-là. Mais bref, ça s'en vient. Faites-vous-en pas. Peut-être en parler justement au podcast.
C'est peut-être une critique de société, Hugo, mais je me dis toujours des gros graphiques sur des jeux qui deviennent de plus en plus gros. C'est pas juste un schéma pour vendre plus de cartes graphiques, ça. En tout cas, je dis ça comme ça.
Mais écoute, ce que je dirais seulement ceci. Je suis étonné que ça demande autant de puissance pour un jeu qui est sorti sur le PlayStation 4. Et c'est la seule chose que je vais dire. Si les gens de Sony et PC m'écoutent, j'ai pas spoilé quoi que ce soit. Mais non, c'est ça. Fait qu'en tout cas, ça pourrait être l'occasion d'une autre discussion à un autre moment donné. J'avais des questions peut-être sur les mécaniques, parce que bon, on connaît généralement les mécaniques de base. Tu commences par créer une hache avec une pierre puis un bâton. Mm-hmm. Éventuellement, tu te ramasses à construire un peu une navette spatiale avec 75 morceaux différents. Est-ce que c'est un peu ça aussi? Comment est-ce que tu commences? Parce que
c'est la survie, Hugo, survie.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours un peu particulier d'avoir des jeux, par exemple, je prends Ark, le jeu Ark, où c'est un peu ce style-là aussi, où c'est un truc futuriste, mais tu commences quand même par prendre deux bouts de gazon ensemble, puis ça fait une corde, après ça, la corde avec une roche, ça fait une hache, et on se dit, ils n'ont pas des technologies qui permettent de savoir comment faire un feu sans avoir besoin de le rechercher. Mm-hmm. Comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce que c'est vraiment le retour à l'âge de pierre?
Un petit peu, mais ça va un peu que la survie. Donc, les jeunes sortent un peu perdus, ils savent pas comment ils sont arrivés là. Donc, ils ramassent les premières ressources qu'ils trouvent, là, des tout petits fragments de roche, de la grosseur d'un demi-grain de sable, et ils les attachent après un morceau de bois. Mais après ça, c'est qu'au fur et à mesure que tu combats des insectes de plus en plus fort, tu peux ramasser leurs morceaux. Mm-hmm. Et justement, là, fabriquer des objets de plus en plus compliqués, parce que c'est juste ça reste toujours au final des armes que tu peux assez simples, là. Le plus compliqué qu'on fait, c'est une arbalète, disons.
Okay. Alors,
c'est quand même le plus compliqué qu'on fait. Donc là, tu construis, tu trouves des ressources sur le terrain, en allant de plus en plus les chercher loin, donc des bébites de plus en plus fortes, des dangers de plus en plus grands, pour finalement fabriquer en fait des outils. Il y a aussi un moment où est-ce qu'on trouve des bonbons sur le terrain qui doivent être 4 fois notre grosseur à peu près. On les casse en fragments et on se sert de ces bonbons-là comme une arme aussi. Ça, je trouve ça toujours drôle, parce que les bonbons sont piquants, alors là, ils font du dommage piquant, ou ils sont des bonbons à la menthe, alors ils font du dommage froid. Parce que bref, je trouve ça quand même drôle. Et là, au final, justement, la technologie, c'est pas tant de développer, c'est juste de fabriquer des armes et des armures de plus en plus performantes avec des morceaux d'insectes de plus en plus tough. Et aussi, dans le fond, il y a une technologie pour trouver des roches brillantes, des cool rocks qu'ils appellent des fois sur le terrain, qui te permettent donc de construire des objets d'upgrade pour rendre tes armes plus fortes et rendre tes armures plus résistantes, donner des nouvelles perks à tes armures. Et aussi, selon le type d'armure que tu construis, tu vas avoir des bonus à certains de tes armes, de ton mouvement, etc., etc. C'est tout un système donc de crafting, d'upgrades qu'on connaît bien. Et justement, ça, c'est juste pour la partie, bien entendu, armes. J'ai pas parlé de la construction de bâtiments et tout aussi.
Dis-moi, est-ce que l'un des méchants, c'est le propriétaire de la maison qui passe la tondeuse? Ou est-ce qu'il n'y a pas ce...
Ça serait vraiment incroyable. Mais de ce que je comprends, je suis pas certain. On est dans... J'ai pas encore tout fait l'histoire, là, mais mm-hmm. on l'apprend assez vite. On est dans la cour arrière du savant qui a recherché la technologie qui nous a rapetissés. Mm-hmm. Et on parle à son assistant de laboratoire, qui est en fait un robot, qui était au départ conçu pour flipper des boulettes de burger. Bref, on parle à son assistant, qui s'appelle Burgle, justement, et qui nous dit, dans le fond, que ce gars-là, il manque à l'appel depuis quelques semaines, on sait pas où est-ce qu'il est. Donc, il peut pas venir couper le terrain, il couper le gazon, et tout nous détruire. D'ailleurs, les voisins qui sont à côté, qui regardent par-dessus la haie ou au-dessus de la clôture, doivent tout battre triper à voir des petites tours. Dépasser du gazon avec des fils d'araignées qui font des ziplines partout dans la cour arrière. Bref. Donc, mais par exemple, tu m'amènes sur un point intéressant, Hugo. L'équipe, parmi leurs notes de développement, les choses qu'ils veulent développer dans le futur, c'est des événements météo. Donc mm-hmm. la pluie, des trucs comme ça qui vont permettre de rejiguer un petit peu, si on veut, la vie dans la cour arrière pour rendre ça un petit peu plus vivant. Et ils parlent aussi justement... ça rajoute une couche de complexité à tout ça. Donc ça va peut-être changer un petit peu, mais pour l'instant, vu que le savant qui habite là est pas là, ben on peut explorer sa cour comme on veut, aller jouer à sa table de pique-nique sur laquelle il y a une planche à jeu de Donjons et Dragons, by the way, ça c'est très drôle. Donc bref, c'est un peu ça, c'est intéressant à ce niveau-là. T'as le jour et la nuit pour l'instant, mais il y a rien qui change dans la cour pour l'instant, mais ça fait partie des plans des développeurs.
OK, donc ça va continuer, même si on est en 1.0, on va continuer à avoir des mises à jour.
Oui, 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 probablement des DLC, des trucs comme ça.
D'accord, mais donc pour l'instant, il n'y a pas de DLC, c'est juste la version complète, entre guillemets.
Ben, avec toute l'histoire, en fait. Là. On est supposé finir l'histoire avec cette patch-là pour l'instant. Donc, c'est l'histoire de Core. Mais vu que c'est une grande cour arrière et qu'on est si petit, ça serait vraiment facile d'ouvrir un nouveau coin de la carte et mettre une ruche d'abeilles dedans, si ça se pourrait.
Parfait. Donc, à ce moment-là, j'imagine que tu recommandes Grounded.
Ben, non seulement c'est un très bon jeu, mais il est très facilement possible de l'avoir pas cher, puisqu'il vient avec la Game Pass. Donc, voilà, c'est juste pour ce fait-là, on peut l'avoir quasiment gratuitement si on est déjà abonné à la Game Pass. Même à ça, il y a des très bons moyens d'avoir des mois de Game Pass pour $1. Là. C'est pas un secret de polichinelle qu'il y a des spéciaux en tout temps. Il y a toujours moyen d'avoir la Game Pass pas cher. Je recommande juste parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans le jeu. Là. C'est juste qu'on soit des miniatures petites créatures dans le fond d'une cour arrière à se battre contre des insectes. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Juste pour ça, je pense que ça vaut la peine de l'explorer. Si on a déjà Game Pass... aucune raison de ne pas l'essayer.
Parfait. Oui, parce qu'effectivement, en ce moment, si vous n'avez pas Game Pass, vous voulez l'acheter sur Steam, par exemple, c'est $40. C'est peut-être un petit peu cher à $40. Donc, il était gratuit en juillet l'année passée, donc trop tard. Mais, mais voilà, donc ça, en ce moment même, il est plus cher que ça. Il est $50. Le prix a changé encore plus en dollars canadiens, donc $50. C'est encore une fois peut-être un peu cher, même si c'est un triple A. Là. Au moins, on n'a pas d'édition premium de luxe à $129.99.
Non, on est content de ça. Moi, je l'ai acheté, je pense, à 26 quand il rentrait en pré accès. Je le regrette pas. C'est un jeu que j'ai joué 200 heures et j'ai pas encore passé l'histoire principale parce que ça vient juste de sortir.
Wow. Ben écoute, quand même, effectivement, ça fait penser, comme tu disais tout à l'heure, à Alex et Echo, c'est-à-dire que c'est un jeu, t'as de la rejouabilité. Et ben j'imagine en plus en multijoueur, ça va être un peu plus fou, là.
Ouais, absolument. Donc, voilà. J'ai certains espaces de la cour arrière que j'ai vu en single player que j'ai souffert en masse, que je serais très intéressé de l'essayer en multijoueur, voir si ça me donnera un peu de répit.
Ben écoute, ça reste à voir, peut-être que tu pourras venir nous en reparler si jamais on a une mise à jour importante, un DLC ou quelque chose comme ça.
Ben le moment que je vais avoir passé le jeu.
Voilà. Ben Francis, merci beaucoup pour cette critique de Grounded.
Ben c'est un plaisir, mon cher Hugo, puis c'est ça, moi j'invite des gens à jouer. On peut faire un serveur d'une équipe de Pixel et Préjugés si vous voulez, si un jour ça vous tente.
Ben oui, effectivement. Ben, je pense qu'on avait évoqué d'autres jeux aussi pour lesquels on pourrait faire un serveur. C'est le genre de choses qu'on met sur notre liste de choses à faire et généralement on se dit, ah, faudrait bien faire ça. Puis là,
on est des adultes, Hugo, le temps c'est compliqué.
Voilà. Puis en plus, on est la plupart travaillent en journalisme, donc avec les élections et tout ça, c'est difficile de trouver du temps.
Voilà.
Voilà. Ben écoute, Francis, encore une fois, merci d'avoir été là pour cet épisode. Merci à ceux aussi qui nous écoutent, bien sûr. Sans vous, on serait pas là, bien entendu. Merci d'être donc fidèle au rendez-vous. Et si vous voulez rattraper les autres épisodes de Pixel et Préjugés, tout ça, c'est sur pieuvre.ca. On est également sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Google Podcasts et sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, je vous invite à vous abonner à la page Facebook du podcast, voilà, de Pixel et Préjugés, et également à l'infolettre de Pieuvre. Vous trouvez ça sur le site web, donc pieuvre.ca. Vous allez dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir, ça se fait en quelques secondes, et ça vous donne accès tous les samedis matins à l'ensemble de nos contenus, donc y compris les balados. Et sur ça, je vous dis, ben, écoutez, merci et à bientôt.